RMC jusqu'à 14h, Motors, Laurent Frédéric Bollet.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Motors, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport mécanique sur RMC. Tout à l'heure, nous nous entretiendrons avec Benoît Trélouillet, triple vainqueur des 24 heures du Mans. Benoît, qui n'est plus présent dans le championnat du monde d'endurance, mais qui a d'autres activités sportives, il nous dira tout. Dans une vingtaine de minutes avec Benoît Boutron, page spéciale MotoGP. Nous sommes pile à la mi-saison et en pleine trêve estivale, avant la reprise en République tchèque le 6 août prochain. L'occasion pour nous de faire un bilan d'une première moitié de saison pour le moins animée. Mais on va commencer par la Formule 1. Et là aussi une page spéciale avec une actu qui ne s'arrête jamais dans ce sport. Et c'est Jean-Luc Roy qui est avec nous aujourd'hui pour ce journal de la F1. Salut Jean-Luc.
Et bonjour NFB, bonjour à tous.
Eh bien écoute, c'est un plaisir de te retrouver. Tu n'es pas encore en vacances, si j'ose dire, parce que la trêve estivale en Formule 1, c'est pas pour maintenant. T'as encore un Grand Prix à devoir nous commenter. Ce sera la semaine prochaine en Hongrie.
Et c'est un plaisir. Écoute, tu le sais, il peut tout arriver sur le tourniquet hongrois, d'autant que avec un point d'écart entre les deux principaux protagonistes, pas les seuls, tout peut arriver.
Voilà, alors on va effectivement redonner le classement du dernier Grand Prix en date la semaine dernière en Grande-Bretagne. On va présenter la Hongrie, puis je t'interrogerai au milieu sur les dernières nouvelles en provenance de la F1, il y en a des quand même assez importantes. Alors, le week-end dernier, donc, Jean-Luc, Hamilton, on va dire, a mis les pendules à l'heure, a frappé très fort, il était littéralement imbattable en son jardin de Silverstone, en tout cas, c'est l'impression qu'il a donné.
Écoute, oui, totalement imbattable, totalement survolté, avec, on va le rappeler une dernière fois ici, cette manifestation très importante à Londres où il avait choisi, à laquelle il avait choisi de ne pas participer pour partir en vacances sur une île grecque, qui lui a été amèrement reproché par toute une partie de la presse et certainement une partie des supporters qui étaient très déçus de voir les 19 pilotes de Formule 1, sauf leur héros, Lewis Hamilton.
Oui, c'est embêtant, bref, à Londres.
Et oui. Donc, il est arrivé avec un contexte qui était un petit peu délicat. Et là, vraiment, il était remonté comme une pendule, c'est le mot. Il a vraiment signé un de ses plus beaux grands prix, soyons clairs. Il a tout aligné, hein, vraiment. Il a ultra dominé avec un tour de qualif absolument formidable. Ensuite, il est parti en tête. Il n'a jamais perdu la tête de ce Grand Prix, même au moment de son arrêt au stand, ce qui est exceptionnel. Meilleur tour en course qu'il a établi à la fin. Bref, c'est le carton plein.
C'est ce qu'on appelle un grand chelem, hein. Ça compte, hein. Enfin, voilà. Je veux dire, il y a des statistiques officielles en F1, un grand chelem. Alors, je crois que c'est Jim Clark qui a le record absolu des grands chelems, mais Hamilton, il est plus qu'à 2 ou 3 unités, hein. Donc, déjà, il a fait très fort, ouais.
C'est tout à fait ça, et c'est seulement, ça fait sa 57e victoire en Grand Prix. Il a fait ce grand chelem à seulement 5 reprises. Donc, tu vois, c'est un événement exceptionnel. Et il était vraiment fou de joie. On l'a vu après partager avec le public. Bon, je crois qu'on va arrêter de parler de cette histoire de Londres. Je crois que lui-même a compris la leçon. À mon avis, si ça se refait, et j'espère que ça se refera chaque année, puisque ça se fera à Paris aussi, tu le sais bien, dès 2018.
Oui.
Non, je plaisante.
On aimerait bien. Si les Anglais le font, pourquoi pas nous, hein?
On va pas lâcher la pression sur le sujet non plus, hein.
Oui, voilà. D'accord. Bon, bah, très bien. Donc, Hamilton qui a devancé Bottas, qui lui a signé un 4e podium consécutif et qui est bien là en 3e homme. Il y a Raikkonen qui est monté sur le podium, lequel Raikkonen a pour la première fois de l'année 2017 devancé Vettel. Et ben comme quoi, tu vois, il fallait être patient. Lequel Vettel ne s'est donc classé que 7e, c'est son plus mauvais résultat de la saison, avec donc des problèmes de pneus qui ont frappé les pilotes Ferrari dans les deux derniers tours. Est-ce que tu as lu quelque part des explications concernant ce problème spécifique aux Ferrari?
Écoute, oui, elles sont un peu ambiguës et un peu empêtrées, ces explications de Pirelli. On devait faire une enquête pour savoir d'où ça venait, mais évidemment, vu l'état des pneumatiques, tu le sais bien, puisqu'on a vu les pilotes ramener leur monoplace péniblement au stand, les pneus étaient totalement délaminés, totalement déniapés, appelle ça comme tu veux, il restait que des lambeaux de gomme, donc ça a quand même permis de terminer. Évidemment, Raikkonen sauve le podium, il a eu beaucoup de chance, et malheureusement, pour Vettel, il y perd 3 places. Alors, on dit que c'est une crevaison lente d'un côté, et on dit que pour Vettel, on ne saurait jamais, vu l'état du pneu.
Bon, bah,
voilà.
Okay.
Donc, je te donne les explications.
Alors, tiens, je te propose juste de réécouter Sébastien Vettel à l'arrivée du Grand Prix de Grande-Bretagne la semaine dernière, qui s'exprimait donc à l'occasion de cette 10e manche du championnat.
Try to get the car back. J'ai essayé d'aller jusqu'à l'arrivée, de sauver le plus de points possible, mais c'était compliqué. Je suis très déçu, je sentais que mon rythme baissait parce que j'étais seul, je ne me battais avec personne. Et puis cette crevaison est arrivée très soudainement. Les pneus étaient censés tenir longtemps, mais ça n'a pas été le cas.
Allez, Sébastien Vettel au micro de Louis Hamard. Donc, la déception. Et au final, un petit point d'avance. Toujours quand même à l'avantage de Vettel. 177 points, 3 victoires. Hamilton, 176, 4 victoires depuis le début de l'année. Bon, cela étant, faut avouer, Jean-Luc, hein, au niveau du scénario, on nous aurait dit à mi-saison, il y a un point d'écart entre les deux. On signait tout de suite, ça c'est sûr.
Absolument. Ben écoute, il faut remettre les choses en perspective. J'entends, comme toi, parfois, les gens qui restent sur de vieilles habitudes en disant « Oui, même cette année, c'est pas terrible. » Je suis vraiment, vraiment pas d'accord. Mmh. D'abord, les monoplaces sont extrêmement plus spectaculaires, plus rapides. Donc ça, on ne peut que s'en réjouir. Et effectivement, peut-être ça se voit pas assez, entre guillemets, mais elles sont extraordinairement rapides. On n'a jamais roulé aussi vite sur la plupart des circuits, hein, quelle que soit l'époque à laquelle on remonte. Alors peut-être, effectivement, elles ne sont pas assez spectaculaire parce qu'elle ne bouge pas assez. C'est vrai que les ingénieurs font un tel travail, elles sont tellement collé au sol, entre guillemets, que ça ne se voit peut-être pas assez. Mais on a eu quelques très belles passes d'armes, celle entre Verstappen et Vettel, on en parlait il y a un instant.
Ah oui.
C'est un vrai combat. Mmh. On a, heureusement qu'il n'y a pas eu de sanction, d'ailleurs, de la part de la direction de course. Donc ça, on apprécie. Les remontées, la remontée de Bottas, la remontée de Ricciardo. Non, je crois qu'on peut dire que c'est vraiment un très très beau championnat. Et bon, pour reprendre ta question et y répondre, ben oui, on repart à zéro, quasiment, avec un tout petit point d'écart entre les deux prétendants principaux au titre, Vettel toujours en tête et Hamilton, bah c'est génial. Mmh. Allez, on attaque la deuxième moitié de la saison avec la Hongrie. Écoute, c'est vraiment super.
Et oui, oui. Et pour finir sur le résultat de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, deux questions finalement en une. Jean-Luc, côté français, Hülkenberg pour Renault, qui fait son meilleur résultat de l'année, 6e, et Ocon, qui est encore dans les points. C'est la 9e fois en 10 courses hein, quand même que le jeune Esteban Ocon termine dans les points. Donc là, les forces françaises ont brillé à Silverstone.
Avec, si tu veux bien, je vais commencer par Esteban Ocon, dont nous disons que c'est vraiment une pépite, que c'est une perle et que Mercedes l'a bien compris. Donc il est vraiment dans la bonne dynamique. On verra ce qui se passe au plus haut niveau plus tard, mais c'est clair que Mercedes ne va pas le lâcher et que Ocon ne fait de commet pas d'erreurs. Elles sont très très rares, les erreurs qu'il a commises depuis son arrivée en Formule 1, et ça va faire pratiquement une saison complète, hein, puisqu'on se souvient qu'il a débarqué à la fin du mois d'août. Hein. Il avait fait les 9 derniers Grands Prix de la saison, 2016 seulement. Il a même pas une année complète au compteur établie sur deux saisons, et comme tu le soulignes, il est vraiment, la progression est très nette. Là, ça y est, il a devancé Perez en course, on attend qu'il le fasse en qualif, mais il est un petit dixième, ça va venir. Mm-hmm. Et puis il a la tête froide. Non, il est génial, il est fabuleux. Écoute, on attend vraiment un avenir formidable pour Esteban Ocon. Quant à Renault, c'est malheureusement une baisse de puissance du moteur, ce qui est paradoxal, qui a coûté sa position à Nico Hülkenberg. Sinon il aurait maintenu Ricciardo avec le même moteur, mais sur la Red Bull, derrière lui. Donc, c'est un tout petit peu dommage.
D'ailleurs, il aurait pu faire 5, c'est ça que tu veux dire. Il fait 6, mais il aurait pu faire 5.
Normalement, il terminait 5. Donc, c'était mieux, évidemment, devancer Red Bull à la régulière avec le même moteur. C'était quand même la première fois que ça arrivait. Donc, c'était super. Alors, il y a des problèmes de fiabilité au niveau du moteur. On a vu que Julian Palmer a même pas pu prendre le départ de son Grand Prix national, ce qui est une calamité. Bon, la question maintenant n'est pas de savoir si Julian Palmer va être remplacé, c'est quand et par qui.
Bon, hein, alors,
je crois qu'il faut être clair là aussi.
Tu crois pas si bien dire, j'allais t'interroger là-dessus. On va juste réécouter, comme ça, pour le mettre à l'honneur en quelque sorte, Nico Hülkenberg à l'arrivée du Grand Prix de Grande-Bretagne, parlant de son résultat avec Renault.
C'est la meilleure course de la saison. Bien sûr, à Barcelone, j'ai aussi terminé 6e, mais dans des circonstances particulières, avec beaucoup de chance. Alors que là, c'est au mérite, même s'il y a eu la crevaison de Vettel sur la fin. On était plus rapide que les Force India, plus rapide que les Williams, et on n'a pas perdu en performance entre la qualification et la course. Ça, c'est important. La voiture était parfaite, ça m'a permis d'attaquer et d'obtenir un bon résultat. Donc, dans l'ensemble, je suis très content.
Very, very happy and positive.
Voilà, donc bravo à Renault, 40 ans après les débuts de Renault en Formule 1. Hein, c'est vrai que c'était aussi un anniversaire. 1977, Silverstone, cette drôle de voiture française jaune, ce moteur turbo qui tient pas dans les premiers temps, on s'en souvient.
Le yellow tipote.
Voilà, la théière jaune, c'est ça, hein, parce que ça fumait.
Théière jaune fumante.
Ouais, c'était de l'humour anglais, mais on s'en amuse, mais c'était une épopée extraordinaire. Alors, Renault qui fait l'actu, mon cher Jean-Luc, parce que le Grand Prix de Hongrie, donc que tu vas commenter le week-end prochain, bon, ça c'est très bien, ensuite il y aura la trêve, mais en fait la trêve, pas vraiment, parce que les équipes vont rester en Hongrie, il y aura des essais estivaux, hein, des essais après le Grand Prix. Et là, il va y avoir des jeunes pilotes qui vont venir un peu se placer, et puis certains titulaires qui vont rester pour que tout ça soit homogène. Or, chez Renault, l'événement pourrait bien être donc la participation de Robert Kubica. Et au-delà de ces essais de Hongrie, on s'interroge actuellement beaucoup sur le retour du Polonais Kubica ou Kubica, chacun prononce comme il veut. Bon, moi je dis Kubica, voilà, parce que c'est...
Oui, à la française,
Ok, merci. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire, qui serait une histoire extraordinaire? On sait qu'il est handicapé pratiquement au niveau de son bras. Alors, je sais même plus si c'est le gauche ou le droite, d'ailleurs.
C'est le droit.
D'accord. Mais personne n'a oublié ce personnage et ce grand champion, donc frappé par un accident en rallye il y a 6 ans. Donc voilà, Jean-Luc, je te lance, globalement, tout ça, on en parle beaucoup, il a fait 2 essais pour Renault. Qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu en penses?
Écoute, moi je pense qu'on ne peut pas offrir, même si on affecte de dire chez Renault qu'on l'aime beaucoup, qu'on n'a pas oublié son passage, que bon, tout ça c'est très bien, mais ça c'était des mots. Moi je pense qu'il y a quand même une idée derrière la tête, qui est maintenant d'évaluer réellement les capacités de pilotes qui puissent conduire une Formule 1, on le sait.
Oui.
Mais maintenant, d'ailleurs, il y a un très bon papier, je me permets de le souligner, dans le dernier numéro d'Auto Hebdo, à ce sujet, et qui résume bien la position, avec une interview de Robert Kubica, qui lui rappelle que maintenant, la question n'est plus de savoir s'il est au niveau, mais si on va le choisir ou pas. Voilà, il en est là.
D'accord.
Donc, il attend Budapest, il attend ses essais en conditions réelles, mais moi, je suis à peu près persuadé, vraiment comme tout le monde, je crois, aujourd'hui, qu'à la suite, donc, ce très grave accident de rallye, c'était le 6 février 2011, il faut le rappeler, c'était il y a longtemps, courageusement, même s'il conduit, je vais pas dire d'une main, mais pratiquement d'une main, c'est ça qui est incroyable. Le talent, la vitesse de Kubica est là, il l'a démontré, il a quand même remporté le championnat du monde des rallyes WRC2, faut-il le rappeler, il y a quelques années. Donc, il a une volonté implacable. Et oui, quelle belle histoire ce serait, il faut être clair. Maintenant, Renault ne va pas recourir aux pilotes polonais uniquement pour la belle histoire. C'est parce qu'il sera capable d'apporter quelque chose dans l'écurie. Écoute, ce serait génial. Maintenant, on va pas peser sur la décision, mais je pense et j'espère qu'il pourra participer à ces essais en Hongrie. Et ce serait là, quelles que soient les déclarations des dirigeants, la preuve tangible qu'on mise potentiellement sur Kubica ça pour 2018 et peut-être avant la fin de la saison, c'est ça que je voulais dire.
Ah oui, d'accord, ok, intéressant. Non, en tout cas, ça va être son troisième, on part du principe qu'il va bien rouler en Hongrie, donc ça va être son troisième essai. Il y en a déjà eu un à Valence en Espagne, un au Castellet, et à chaque fois on a l'impression qu'on monte un peu en puissance sur le fond de cet essai. C'est vrai que j'aurais envie de te dire, alors on aurait fait tout ça pour rien aussi à la fin, ça pourrait être possible?
Non, ça n'est pas possible. Alors évidemment, pour le moment, il y a beaucoup de monde sur la liste, sur la shortlist de Cyril Abitbol. Évidemment, on parle toujours d'Alonso, mais je crois que ça s'éloigne un petit peu parce que ce serait une belle histoire de continuer, d'avoir une autre période Renault. On rappelle quand même qu'il a décroché ses 2 titres de champion du monde il y a tellement longtemps, maintenant 2005 et 2006, sous les couleurs Renault. Donc c'est vrai que le voir rejoindre l'équipe, bon, je crois qu'il y a plusieurs problèmes. Même s'il sera libre de tout contrat, est-ce que Fernando aura envie de s'engager au vu des performances actuelles de l'équipe Renault? Je ne sais pas.
Bon, et Carlos Sainz, on en a parlé aussi, Carlos Sainz.
Alors, Carlos Sainz, ça c'est la solution, on va dire, logique, parce que il est jeune, il a 22 ans, il est talentueux, on sait qu'il veut, il l'a dit publiquement, et puis finalement, Toro Rosso, moyennant un gros paquet de dollars, serait prêt à le lâcher, probablement. Donc ça, c'est vrai que c'est la solution logique. Maintenant, Kubica peut venir brouiller les cartes, et puis si les négociations ne se dénouent pas correctement avec Toro Rosso, je pense que c'est les deux dans la shortlist, de mon point de vue, en tout cas de l'extérieur. Maintenant, je n'ai probablement pas toutes les cartes en main.
Bon, affaire à suivre, comme on dit, mais c'est intéressant, c'est même passionnant, et c'est vrai que c'est un grand personnage qu'on aimerait bien revoir, donc faut voir comment ça se passe au niveau de ses essais d'après le Grand Prix de Hongrie.
Attachant, voilà, on va rajouter ça en plus,
tout à fait.
Courageux, attachant, qui la ramène pas entre guillemets, unanimement apprécié de tous les autres pilotes. Enfin quelle belle histoire. Je crois que ça arracherait des larmes à pas mal de gens.
Alors, l'autre nouvelle de la semaine, ce sont les suites du dernier essai en date de la protection des pilotes. Tu sais qu'on en parle beaucoup. Il faut donc une sorte de protection. La FIA semble décidée à introduire ça pour 2018. Alors, vous qui nous écoutez, c'est pas évident à décrire. Il y a eu un premier essai, ça s'appelle le halo. C'est une sorte de triangle au-dessus de la tête du pilote. Ensuite, il y a eu l'aéroscreen développé par Red Bull, c'était une solution un petit peu plus enveloppante. Et puis dernièrement, il y a eu le shield. Ça, c'est des mots anglais, désolé, mais c'est comme ça qu'on dit. Essayé par Vettel à Silverstone. Alors, un essai, j'ai l'impression qu'il a été catastrophique. Vettel s'est arrêté au bout d'un tour en disant qu'il était malade. Ou en tout cas, qu'il avait des troubles de vision ou de vertige même.
Bah oui, écoute, tu sais, dans la droite ligne de ce que j'ai déjà pu te répondre ou dire dans le passé à ce sujet, on va chercher des problèmes, mais sincèrement, il n'y en a pas. Et je me permets de rejoindre un triple champion du monde qui n'est autre que Niki Lauda, qui n'a pas de mots assez durs et dit mais de quoi on parle, de quoi on s'occupe. Les Formule 1 n'ont jamais été aussi sûrs, c'est une évidence. Alors malheureusement, c'est un sport dangereux. On n'envoie pas des pilotes à plus de 300-350 km/h sur des tracés. Oui, il peut y avoir, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi, nom d'un chien. C'est pour ça qu'on est passionné. Le halo, ce serait la pire des solutions. C'est hideux, c'est oui. Immonde, c'est horrible. Au moment où on a recréé des Formule 1 spectaculaires et ma foi, assez jolies, hein, de forme, mmh. assez bien équilibrées, plus larges, avec des gros pneus, enfin bon, on irait greffer ce machin épouvantable au-dessus de la tête des pilotes.
Et mais bah, écoute, parce c'est que carrément monstrueux. Et bah voilà. Oui, bah parce que je vais te dire ce que tous les gens favorables à ce système vont te dire. Et ça améliore la sécurité. Et ça, tu peux pas badiner avec ça. Qu'est-ce que tu
Écoute,
réponds alors?
Ouais. Alors, mais oui, on peut toujours, mais alors il faut les mettre, attends, il faut fermer la voiture complètement là mmh. aussi. Il faut faire comme en NASCAR, hein. Tu connais ça comme moi, mmh. avec un énorme arceau tubulaire tout autour. Après, on pose une peau dessus. Non, mais c'est plus, je suis navré, ce n'est plus de la Formule 1. Je crois que du côté de l'IndyCar, on est aussi très soucieux de la sécurité des pilotes. Mmh. Il y a eu des drames parfois récemment. Bah, oui. Avec, c'est vrai, le plus dangereux, ce sont les roues, hein, les roues qui volent, qui sont arrachées, qui viennent retomber sur le pilote. Mais les pilotes le disent eux-mêmes, bah, on accepte le risque, on est là pour prendre des risques, on est pilote de Formule 1, c'est pas pour être à 100% sécurisé. Mmh. Donc je crois qu'il faut pas faire n'importe quoi, et puis surtout, la solution peut être pire que de rien mettre du tout. Parce que moi, je te fous mon billet que si on opte pour le halo, cette espèce de masse centrale devant les yeux du pilote en permanence, mais c'est très mauvais. Mais amusez-vous avec votre main là maintenant, verticalement devant vos yeux à 30 cm, et regardez en face, vous allez voir ce que ça donne. Enfin, arrêter de jouer. Mais non, mais attends.
Ouais, non, mais
alors,
c'est...
Vettel l'a dit, effectivement, le dernier système imposé, là, ben oui, ça crée des turbulences à l'intérieur, ça, tous les motards qui ont des pare-brises le connaissent par cœur, ou ceux qui ont des cabriolets, hein, tout simplement, mm-hmm. et qui peuvent rouler un petit peu vite, ils comprennent tout de suite. En plus, ça peut créer des problèmes en cas de pluie, ça va créer de la buée à l'intérieur, il va falloir évacuer les gouttes d'eau, bien sûr. Donc, bref, je pense que le remède est pire que le mal, moi, mm-hmm. c'est mon avis, hein. Alors, évidemment, on va me dire, oui, et si une roue arrive, ah ben oui, c'est le cas unique, malheureusement, il y a eu effectivement, dans le passé, il y a eu des exemples dramatiques, c'est vrai. Mais écoute, c'est un risque que les pilotes assument. Je crois que l'ensemble de la monoplace a été tellement amélioré avec les crash tests, hein, frontaux, latéraux, de l'arrière, etc. Maintenant, le pilote est engoncé dans son habitacle avec ce fameux headrest, tu sais, qui a causé des problèmes oui. d'ailleurs à Hamilton lors du Grand Prix. Bon, mais tout ça, c'est abouti. On peut encore peut-être les enfouir un petit peu plus profond, mais le problème, c'est la visibilité sur la piste après. Voilà le problème. Mmh. Et ce qu'ils soulignent tous quand ils ont essayé ça, c'est qu'ils ont du mal, depuis l'habitacle tel qu'il est aujourd'hui, à bien appréhender les points de corde, les trajectoires. Parce que n'oublions pas qu'ils en abordent certains, ça a été le cas en Grande-Bretagne, hein, le fameux enchaînement, la Copse, Chapel, etc., Maggots, fabuleux, et ben on est à 250-280 km/h, et il faut mettre la roue au centimètre près. Ben, le pilote, il y voit de moins en moins bien dehors. Mmh. Voilà le problème. Quant à effectivement, là, ben, c'était un circuit très rapide. Moi, je comprends que effectivement, Vettel après un seul tour se dise, attends, j'ai la tête ballottée dans tous les sens, ma vision est perturbée. En plus, ben, forcément, cet écran devant, ce pare-brise qui n'est pas plat, déforme totalement ma vision. Oui. C'est dangereux. Hop, j'en veux pas. Terminé.
Bon, bah écoute, fin provisoire de ce chapitre, mais là aussi, mon petit doigt me dit quand même que c'est pas terminé et que tu n'as pas fini de nous en parler.
Oh oui.
Et de nous décrire la chose. Bon, bah Jean-Luc, on te souhaite une bonne semaine et on te retrouve donc le
Merci.
Week-end prochain, ce Grand Prix de Hongrie. 14h les essais samedi, 14h dimanche le départ, horaire européen traditionnel pour ce 32e Grand Prix de Hongrie. Disons, ça va vite. Hein. Je me souviens très bien du premier Grand Prix de Hongrie de l'histoire.
Moi aussi, j'étais sur place, c'était quelque chose. Hein, oui. Avec Adrien, Tombé et Louis Amar.
C'est ça,
sûr,
tout à fait. Merci Jean-Luc, à très vite donc.
C'est un plaisir.
Merci.
Ciao,
voilà. Ciao. Allez, les invités se succèdent prestigieusement, mais c'est Loris Bas qui est avec nous. Salut Loris, tu nous entends bien?
Salut. Ouais. Ouais, très bien.
Loris Bas, dois-je te présenter évidemment pilote MotoGP français. Bravo Loris, tu es 15e au championnat, tu as marqué 31 points depuis le début de l'année et moi je dis que c'est très très bien et je te propose de venir en parler ensemble dans quelques instants Loris, hein, pour une page spéciale MotoGP qu'on va ouvrir. Merci de rester avec nous, à tout de suite.
RMC Motors avec Motors TV. RMC jusqu'à 14h Motors, Laurent-Frédéric Bollet.
Allez, on va ouvrir une page spéciale MotoGP aujourd'hui dans Motors, car ça tombe bien, on est en pleine trêve et on a juste passé le cap de la mi-saison. Il y a 18 Grands Prix cette année à disputer dans ce championnat du monde de vitesse moto et 9 ont déjà eu lieu. Et Benoît Boutron est bien évidemment avec moi pour en parler. Salut Benoît.
Salut LFB, salut à tous.
Alors nous avons donc un invité aujourd'hui et prestigieux, c'est Loris Bass qui nous fait une nouvelle fois l'amitié d'être avec nous. Re-salut Loris.
Salut.
Salut Loris.
Eh ben, je te propose qu'on discute à trois, en quelque sorte, de cette première moitié de saison. Même si ma première question, elle est pour toi, Loris, évidemment, elle est même personnelle. Est-ce que tu profites de quelques jours de vacances? Est-ce qu'on te dérange en vacances? Et au niveau de la santé, comment tu vas? Voilà, dis-nous tout.
Bah, écoute, ça va, j'ai profité des premiers jours de trêve pour me faire opérer de mon bras. J'avais le syndrome des loges qui me gênait de plus en plus depuis le début de saison.
Alors, il faut que tu nous expliques ce que c'est, parce que je sais que tous les motards parfois
que
en souffrent.
80% des pilotes ont ça, ouais.
Alors, c'est quoi exactement? Et dis-nous quels sont les types de douleurs que tu ressens quand on a le syndrome des loges?
Bon, en fait, c'est assez simple, c'est le muscle de, bon, chez le motard, c'est dans l'avant-bras qui gonfle trop comparé à l'espace qu'il a. Donc, l'opération, elle consiste à couper la gaine du muscle sur une dizaine de centimètres pour permettre au muscle d'avoir plus de place. Et les douleurs qu'on a en roulant, elles sont assez simples. En fait, le muscle, il tétanise à l'intérieur de la gaine. Il bouge complètement l'artère du bras. Mmh. Et on a le bras qui est presque plus irrigué. Et en fin de course, en fait, sur certaines courses, je sentais plus du tout mes doigts. J'avais du mal à accélérer, à freiner. Donc, ça devenait même dangereux. Donc, voilà, j'ai profité de cette trêve pour me faire opérer dans le sud de la France.
Bon,
par le docteur Dufour.
Et ce sont des opérations lourdes. C'est anesthésie générale.
Ouais, c'est anesthésie générale, mais c'est assez simple. On sort le... C'est en ambulatoire, donc je suis sorti l'après-midi même. J'ai eu une semaine un peu tranquille et là je suis en Espagne. J'ai commencé à rouler en super motard, en cross, et il y a presque plus aucune douleur. Donc l'opération, pour l'instant, c'était nécessaire. Bon, et je suis content de l'avoir fait.
Et tu as profité donc de cette trêve estivale pour le faire. Hein, on a bien compris.
Ouais. On a eu de la chance d'avoir un mois cette année, donc il fallait le faire.
On rappelle que Loris, c'est le grand gabarit du paddock, évidemment. Hein. Loris, tu fais quoi, 1m80, un peu plus d'un mètre 80?
10
1m91.
Ouais, 1m91. Oui. Donc, par rapport à tous les petits pilotes, je pense notamment à Dani Pedrosa, il a du mal à te regarder dans les yeux. Donc, forcément,
Il y a 30 centimètres d'écart entre vous deux, je crois. Hein,
c'est plus compliqué pour toi, forcément.
Ouais, c'est sûr que cette taille, tout le monde est au courant et on en a beaucoup parlé lors de l'année de mon arrivée en MotoGP. Bah oui.
Alors Loris, tu sais qu'on parle de toi pour ta taille, également pour tes qualités sous la pluie. Hein. Je t'avoue que dès qu'il pleut, quand on suit un Grand Prix, on se dit « Ah ça y est, c'est pour Loris ». T'as vraiment des facultés dès que la piste est mouillée. Tu l'as encore ressenti sur cette première partie de saison. Tu t'es pas trop mal classé hein, au final. Hein. Tu as marqué pas mal de points, t'es 15e.
6 fois dans les points,
et ouais, 31 points.
Bah oui.
La première partie de saison est très bonne, Loris, en fait.
Ouais, elle est bonne. Alors je pense qu'elle aurait pu être un peu meilleure, mais... ce bras m'a quand même bien handicapé, mais non, je suis content. Voilà, je roulais avec une moto de 2015, donc il y a 2 ans. Donc sur certains circuits, c'est un peu plus difficile que sur d'autres, mais on essaye de faire notre travail du mieux possible. Je me sens bien sur cette moto. J'ai réussi à faire. Et on n'a pas eu vraiment beaucoup de courses sur le mouillé, mais quand il y en a eu un peu, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu comme d'habitude. Quand ça nivelle un peu les performances, et voilà, on est sur. On est sur la ligne d'objectifs qu'on s'était fixé en début de saison. Il faut essayer de rentrer un peu plus dans le top 10. Mais voilà, il y a de plus en plus de motos compétitives, de motos officielles. Et avec une moto d'il y a 2 ans, c'est de plus en plus compliqué.
6 fois dans les points sur 9, donc. Tu n'es qu'à 13 points de la 11e place du championnat. Donc, c'est pas si loin que ça d'un top 10 global. Et ton meilleur résultat cette année, ça a été 8e à Assen, circuit mythique s'il en est. Moi, je dis qu'effectivement, tu peux quand même être très content de toi.
Non, je suis content, surtout qu'il y a plein de courses où je me suis battu avec des pilotes officiels. Au Qatar, c'était Lorenzo. Sur 2 ou 3 autres courses, c'était avec Andrea Iannone. On a fait des belles bagarres à Assen où j'arrive à le doubler dans le dernier tour. Donc voilà, les écarts, ils sont vraiment réduits cette année. En Allemagne, il y avait 1 seconde entre le premier et le 22e sur une séance, je me souviens. Donc c'est les petits détails qui font la différence et on essaye de... On a vraiment changé l'approche des choses comparé à l'an dernier. On essaie de prendre les choses plus calmement, sans vraiment se fixer l'objectif et en essayant de se faire tout le temps plaisir sur la moto. Et pour l'instant, ça paye. Donc voilà, essayer de continuer comme ça pour la deuxième partie de saison et et j'espère marquer des points sur les 9 prochaines courses.
Et voilà, donc ça redémarre le 6 août, hein, on le rappelle, le Grand Prix de République Tchèque. Alors, Loris, je profite de ta présence là. Tu vas mettre ta casquette de consultant car tu vas quand même bien nous donner quelques-uns de tes avis sur ta discipline. Alors, on va parler de Zarco dans un prochain temps. Hein. Ouais. Johan Zarco, évidemment, qui a crevé l'écran en ce début d'année, ça c'est sûr. C'est une question à lui tout seul. Mais Benoît, résume-nous la situation. Les 4 premiers du championnat, ce sont des stars mondiales évidemment, sont groupés en 10 points. C'est incroyable.
10 points d'écart entre le premier Marc Marquez et le quatrième Valentino Rossi. Ce qui est important à signaler également, c'est qu'en 9 courses, on a eu 5 vainqueurs différents. C'est ce qui avait fait un petit peu l'actualité en 2016. On avait eu un super championnat. Eh bien, ça se répète cette année. On avait peur au début, puisqu'on a vu que Vinales avait remporté facilement les 2 premiers Grands Prix. On s'est dit, ça y est, sur sa Yamaha, le nouveau pilote Yam va dominer facilement. Eh bien, non, puisqu'il a chuté au 3e Grand Prix. Marc Marquez s'était imposé. Que des cadors devant, ils se tiennent en 10 points. On a une saison fantastique pour l'instant, sportivement parlant.
Voilà, c'est Marquez donc qui est en tête, mais c'est vrai que Vinales a gagné un peu plus que lui finalement, mais il y a que 5 points d'écart. Dovizioso qui nous fait une super série là ces derniers temps avec 2 grands prix consécutifs sur Ducati. Bah il est là, 3e, c'est un peu l'invité surprise. Et ouais. Valentino Rossi, éternel, hein, j'ai envie de dire, à 10 points seulement. Alors Loris, quand tu vois ce top 4, toi tu l'observes, hein, t'es en plein cœur de la mêlée. Qu'est-ce que t'en penses? Quelle est ton analyse?
Bon, on se rend compte que le championnat il va dans la bonne direction depuis quelques années et on arrive maintenant à avoir un plateau de pilotes très homogène avec une dizaine de pilotes qui peuvent se battre pour gagner des grands prix, au moins pour être sur le podium. Et voilà, on se rend compte que même pour les 4 ou 5 fantastiques, c'est pas aussi simple que ça. Et vu qu'il y a de plus en plus de pilotes qui sont là. Dans le top 5, top 10 pour se battre pour le podium, ils n'ont pas le droit à l'erreur non plus. Dès qu'ils se perdent un peu dans leur week-end, comme on l'a vu pour Maverick sur certains grands prix comme à Barcelone où ils trouvent pas les solutions, et ils ont eux aussi du mal à rentrer dans les 10. Donc c'est en tout cas un championnat magnifique et c'est sûr que je pense qu'il y a plein de choses qui sont possibles dans ce championnat. Et on peut jamais savoir à quoi s'attendre quand on arrive sur un circuit, par les pneus, par les performances des motos, par quel pilote va se sentir très bien ce week-end-là. Et voilà, ça fait un championnat qui est magnifique. Et les gens, moi, tous les gens à qui je parle, se régalent à regarder le championnat cette année.
Et puis ça a une autre incidence, Loris, tu vas me confirmer, mais on a l'impression que des pilotes comme Marquez ou Valentino Rossi, contrairement aux années précédentes, ils pilotent pour les points désormais. C'est-à-dire qu'ils peuvent se contenter sur certains grands prix d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième place. On commence déjà à calculer. Est-ce que tu le ressens, toi, sur la piste? Est-ce que tu sens que le mec devant limite en quelque sorte les risques pour être sûr d'accrocher des points et de rester placé au classement général?
L'an dernier, ouais, on a vu que Marc, il a gagné son championnat grâce à ça, en faisant moins d'erreurs que les autres. Cette année, je trouve pas, parce que c'est rare à mi-saison d'avoir eu des pilotes qui ont fait une ou deux erreurs et qui sont encore dans la course au titre. Donc normalement, c'est d'avoir fait 2 résultats blancs ou presque blancs à mi-saison. On n'est plus du tout dans la course au titre. En tout cas, l'an dernier, Rossi, quand il est arrivé à mi-saison, son résultat blanc de l'Argentine, il était encore à une vingtaine de points, je crois, l'année dernière à mi-saison. Cette année, voilà, il a tous les pilotes ont fait les résultats blancs devant parce que il y a tellement un gros niveau entre les pilotes de tête et ils sont tous très proches les uns des autres que même en voulant des fois assurer, on perd pas qu'une place ou 2 places comme on faisait dans le passé, on en perd plus. Donc, je pense aussi que pour eux, c'est compliqué d'assurer de lire comment va se passer le championnat. Et je pense que si Maverick a mis une grosse pression au début de saison en gagnant les 2 premières courses, Dovizioso aussi en gagnant 2 de suite.
Mais oui.
Donc ça met aussi la pression à tout le monde et voilà. Mais c'est sûr que pour la deuxième partie du championnat, je pense que ça sera au pilote qui fera le moins d'erreurs. Quoi.
Oui. Et Rossi, tiens, pour revenir sur lui, il peut avoir beaucoup de regrets, hein, au Mans.
Ouais, bien sûr,
il fait 0 alors qu'il pouvait gagner et il a que 10 points de retard au championnat.
Ouais, c'est sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui peuvent avoir des regrets, mais qui en fait n'en ont pas à mi-saison parce qu'ils sont encore dans la course, parce que la chute de Maverick aux États-Unis, elle aurait pu lui coûter cher aussi, celle de Marc en Argentine. Au final, ils ont tous fait une erreur ou deux et ils sont encore là dans la course au titre. Donc, par contre, sur la deuxième partie du championnat, je pense que ça sera à celui qui fera le moins d'erreurs. Ouais.
Loris, tu es directement concerné, tu fais partie de la team Ducati. Qu'est-ce que tu penses de la première partie de saison de Jorge Lorenzo? C'était l'attraction.
Oui,
ça y est, Lorenzo
parle
de Yamaha, il file chez Ducati. Meilleure performance, c'est une troisième place à Jerez. Il a pris ça comme une victoire. Il était tellement heureux de décrocher un podium. Il est pas trop mal en qualif, mais en course, il a beaucoup de mal avec sa moto, hein, Loris.
Ouais, moi je m'attendais un peu mieux, pour être honnête, surtout sur des circuits favorables à la Ducati. Et au final, il fait son podium sur un circuit qui est pas favorable, en tout cas aux anciennes Ducati. Je pense que Gigi Dallinia et toute l'équipe de Ducati ont fait un excellent travail avec cette nouvelle moto. On voit qu'Andrea arrive à être là, à se battre pour le titre. Donc il y a eu un gros pas en avant de fait. Après voilà, Lorenzo, on connaît son style, c'est toute sa carrière sur Yamaha en MotoGP, donc il faut du temps. Mais c'est un pilote intelligent et il va trouver les clés pour arriver à aller vite avec cette moto sur la durée d'une course. C'est sûr que faire un tour, on peut des fois y arriver sur la confiance, sur l'énergie en prenant un pilote comme référence. Sur la course, il faut vraiment être en confiance avec sa moto. Et pour l'instant, il n'est pas en confiance totale. On le voit qu'il roule pas comme il roulait avec la Yamaha. Donc, il doit être en train de chercher le compromis entre s'adapter à la moto et adapter la moto pour lui. Voilà, ça demande du temps et il y en a pas beaucoup pendant la saison. Il n'y a pas beaucoup de temps de roulage en dehors des courses. Mais il va trouver. Moi, je suis convaincu qu'il trouvera. Il va
ça reste un champion, évidemment.
Bon, ok. Allez, dernière question, Loris, puis on te libère. Mais on te remercie vraiment encore beaucoup d'être avec nous. Johann Zarco, donc ton compatriote, le Français, qui nous a fait une première moitié de saison formidable. Hein, ça faut quand même être honnête. Il est sixième du championnat, à 45 points finalement seulement de Marc Marquez. Alors, je te pose la question spontanément, hein, Loris. Hein, comment tu t'entends avec Johann et qu'est-ce que tu penses de sa première moitié de saison?
Oh bah c'est exceptionnel et ça fait du bien au sport moto en général en France. On voit qu'il y a de plus en plus de monde qui nous suivent et il n'y est pas pour rien avec ces deux titres de champion du monde et l'excellent début de saison qu'il est en train de réaliser. Après il a été double champion du monde en Moto 2, ça n'avait jamais été réalisé et c'est logique aussi qu'il soit performant en MotoGP, mais ça reste dans la lignée de tout ce que je disais avant, c'est que c'est un championnat où il y a de plus en plus de pilotes qui peuvent se battre pour le podium et qui mettent la pression aux pilotes de devant, et Johann en fait partie. On avait aussi Folger qui a fait une course fantastique.
Oui, son coéquipier, c'est vrai. Prix,
qui fait une première partie.
Il est 7 au championnat juste derrière.
Ils sont là derrière.
Voilà, il y a aussi Alvaro Bautista qui arrive à être là. Il y a beaucoup de pilotes qui arrivent avec des motos privées, donc c'était pas possible par le passé parce qu'il y avait trop d'écart. Maintenant, les motos privées sont de plus en plus proches des motos officielles qui arrivent à performer et qui mettent la pression. Et Jonas a mis une grosse pression à Marc sur le dernier Grand Prix. Et Johann a mis la pression sur presque tous les Grands Prix aux 4 ou 5 soi-disant pilotes fantastiques qui sont devant. Donc c'est exceptionnel et en tout cas, ça fait du bien au sport moto en France. Donc je vais essayer de me rapprocher de plus en plus.
Voilà. C'est vrai que pour un pilote français, faire podium au Mans et décrocher une pole position, ce qui n'avait pas été fait depuis des années, il a frappé fort sur la première partie de saison. Juste pour l'avenir, Loris, rassure-nous, tu vas rester en MotoGP l'an prochain, il y a des discussions actuellement?
J'espère, ouais, les discussions ont commencé, elles vont continuer à partir du Grand Prix de Brno et durant tout le mois d'août. J'espère rester, voilà, c'est l'objectif. C'est en tout cas pour l'instant les performances et les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison avec le team, on est dedans. Donc voilà, normalement il y a pas de raison sur les résultats, mais on sait qu'il y a pas que les résultats qui rentrent en ligne de mire dans les négociations. Mais j'espère qu'en tout cas le team est content de ce que je réalise à l'heure actuelle et moi je suis assez content, même si je répète, on peut encore faire mieux. Voilà, on va voir sur les prochains Grands Prix comment ça se passe, et en tout cas j'ai un manager qui est assez bon et qui s'occupe de ça derrière moi pour me laisser la tête libre et essayer le temps de penser moi aux courses et au moins de choses en dehors de ça.
Bon ben on est avec toi, hein, évidemment à fond, et on veut te garder avec nous dans le casting du MotoGP. Ça tu le sais, et on te souhaite plein de bonnes choses à ce niveau-là. Mais bon, c'est peut-être des négos tout ça, oui, c'est pas évident. Mais allez, on est avec toi, Loris, et on te remercie vraiment beaucoup.
Merci, Loris,
d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct dans Motors. Salut Loris, et à très bientôt donc.
Merci beaucoup.
Salut.
Allez Benoît, on va conclure quand même cette page spéciale moto pour parler des autres disciplines.
Oui.
parce qu'en Moto 2, en Moto 3, là, c'est différent. Hein. On a le sentiment à chaque fois qu'il y a quand même quelqu'un qui a pris le pouvoir. Hein.
Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de suspense. Bah, à commencer par la Moto 2, évidemment, Franco Morbidelli, l'Italien, c'est simple. Il y a eu 9 Grands Prix, il en a remporté 6. Donc, il se balade au classement. Il a 34 points d'avance. Il a plus d'une victoire d'avance sur le deuxième Thomas Lüthi, qu'on avait vu l'an dernier à la lutte, le Suisse avec Johann Zarco. Ça semble bien parti pour Franco Morbidelli. On signale tout de même la 16e place de Fabio Quartararo.
Côté français, Fabio Quartararo qui
a inscrit 32 points.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Tu sens que ça stagne un petit peu?
Ce qu'on peut dire, c'est que il est plutôt pas mal en qualif. En revanche, il a souvent du mal à confirmer en Grand Prix. C'est ce qui porte préjudice. Il a fait quelques petites erreurs, des sorties de route et des chutes pour Fabio Quartararo. Il reste un pilote très jeune, donc avec une marge de progression. Oui. Mais c'est vrai que le Moto 2 est plus dur que le Moto 3. On s'y attendait un petit peu. On pouvait espérer un petit peu mieux du français, mais pour l'instant, il doit se contenter de la 16e place du général. C'est la moitié de la saison. On fera le bilan à la fin, évidemment.
Bon, il a 32 points. On en parlait avec Loris qui lui en a marqué 31, donc c'est pas si mal.
Ouais, après MotoGP, c'est un autre monde.
Oui, voilà,
évidemment.
Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Donc Morbidelli, oui, qui se dirige vers le titre. Tiens, je vois dans le top 5 un certain Alex Marquez. Il s'agit bien du petit frère. Donc,
exactement.
Ils sont partout. Il est quatrième lui au championnat. Il a quand même gagné deux fois.
Hein, oui, il a gagné deux fois. Il a gagné chez lui en Catalogne et il a gagné toujours en Espagne à Jerez. Et en fait, il brille devant ses supporters. Donc Marquez est très bon en Espagne.
Bon, et c'est pas aussi un Espagnol qui est en tête en Moto 3.
Et si, Joan Mir, mais ça, on en parle depuis plusieurs semaines. Ce qui est très fort avec Joan Mir, c'est qu'il domine la discipline. Il a 5 victoires depuis le début. Et surtout, à chaque fois, je sais pas si tu as suivi, mais on a des scénarios fantastiques en Moto 3, quoi. Ça joue toujours dans le dernier tour. Et à chaque fois, c'est Joan Mir qui est placé et qui fait la différence. Vous avez vraiment un peloton de tête dans le dernier tour avec 6-7 motos. Et lui, il parvient tout de même à l'emporter. Super pilote à suivre, évidemment. Joan Mir qui est en tête. Lui, il a 37 points d'avance sur le deuxième Romano Fenati. Mais excellent pilote, cet Espagnol Joan Mir.
Oui, donc là, l'écart est même encore plus important, même s'il y a une victoire de moins par rapport à Morbidelli en Moto 2. Mais là, une tendance aussi s'est affirmée. C'est incontestable en faveur de Mir. Côté français, c'est Jules Danilo qui nous représente en Moto 3.
Ouais, chez Honda.
Et il a le même nombre de points quasiment que Baz et Quartararo et le même positionnement.
Points, un petit peu déçu également Danilo sur les derniers Grands Prix, hein, ceux qui se sont déroulés vraiment en juin et en juillet. Il était souvent placé. Il a perdu des places régulièrement là aussi dans les derniers tours, mais il est là, Jules Danilo. Il marque des points. C'est différent par rapport aux saisons précédentes puisque ça fait déjà 2 saisons, je crois, qu'il est là en Moto 3. Il avait manqué de régularité la saison dernière. Là, il marque des points. Il est à 29 points. J'espère que ça se passera mieux sur la seconde partie de saison également.
Bon, alors une moitié de saison, donc une deuxième moitié de saison, qui démarre, comme on vous le disait, dans 15 jours, le Grand Prix de la République tchèque, sur le circuit de Brno, ça s'écrit B-R-N-O, donc il faut rajouter un E, je crois, entre le B et le R, Brno.
C'est ça.
Et ça sera le 6 août, donc on suivra ça, puisque Motors ne s'arrêtera pas pendant la trêve estivale, donc nous serons bien là pour surveiller ce Grand Prix de République tchèque. Benoît, je te remercie beaucoup d'être venu. Et c'était bien sympa d'avoir également Loris Baz en direct avec nous. Allez, Motors qui continue à tout de suite.
RMC Motors avec Motors CV. RMC jusqu'à 14h. Motors. Laurent-Frédéric Bollet.
On a coutume de dire que c'est la dernière ligne droite dans Motors aujourd'hui, mais c'est un petit peu le cas et on va la passer en recevant un invité prestigieux qui nous fait l'amitié là aussi d'être avec nous en direct. C'est Benoît Trélier. Bonjour Benoît.
Bonjour à tous.
Triple vainqueur des 24 heures du Mans. Mais oui, ça le fait toujours très très bien de dire ça. Ancien champion du monde d'endurance. Et oui, tout ça, on va pas te l'enlever, hein, mon cher Benoît.
Ah non.
Tu as été conquérir ces titres et ces victoires magnifiques. Et donc, évidemment, tu les as jusqu'au bout. Est-ce qu'on te dérange en vacances éventuellement? Là, c'est un petit peu la question que je pose rituellement à tout le monde parce que c'est la saison. Et puis, bah, après tout, on est entre nous et c'est la bonne humeur qui règne. Mais c'est peut-être le cas, non? Dis-nous tout.
Ouais. Bah là j'étais dans la piscine tout à l'heure, mais ouais.
Donc non,
un
mais peu
là, quand
même.
Petit week-end tranquille, ouais. Non, juste un week-end parce que j'étais à une course le week-end dernier et cette semaine j'ai un peu travaillé quand même et puis je pars à Spa mardi. Donc,
oui. Alors, donc voilà. Bon, bah, je voulais évidemment te demander des nouvelles de tes activités actuelles parce que donc tu as quitté le championnat du monde d'endurance. Tu étais un pilote Audi emblématique. Audi a quitté ce championnat du monde d'endurance, même si là aussi je te poserai une question tout à l'heure sur la situation actuelle du championnat du monde d'endurance et j'aimerais bien avoir ton avis. Mais je reviens sur toi. Donc tu n'es plus officiellement championnat du monde d'endurance avec Audi. Tu as dû aller ailleurs. Que deviens-tu, mon cher Benoît? Où te voit-on courir?
Alors, pour le moment, c'est un peu une année transition parce qu'on a été un peu surpris en fin de saison, donc on n'a pas vraiment choisi à 100% les programmes qu'on aimerait faire. Malgré tout, je fais quelque chose qui est quand même intéressant. Le GT dans le championnat Blancpain Endurance et aussi au championnat italien.
Ah oui.
Donc parce qu'en fait, bon, moi, comme c'est un programme qui s'est monté un peu au dernier moment, j'ai pas beaucoup d'essais, donc j'ai eu l'opportunité de faire le championnat italien et du coup, le championnat italien qui est très sympa avec une équipe qui est très très forte aussi avec Audi Sport Italia. Donc c'est voilà, ça me permet de rouler et de m'entraîner en GT un petit peu en attendant de voir ce que je vais faire la prochaine.
Bon, bah ça, ouais, c'est pas mal. Donc tu es resté chez Audi, là, on a bien compris qu'il y avait quand même des liens qui allaient pas se défaire, mais côté GT.
Voilà.
Alors, au niveau adaptation, il t'en a fallu ?
Oui, bon, bah, il y a toujours un temps d'adaptation. Après, c'est plus compliqué en fait en course que dans la voiture elle-même, même si en championnat endurance, Blancpain endurance, mes temps sont pas encore là où j'aimerais être. Mais en Italie, j'ai un setup qui me correspond un peu plus, c'est moins agressif, plus facile à conduire. Et là, par contre, ça va mieux. Je joue les pôles, les victoires, donc ça va un peu mieux, quoi. Mais c'est vrai que 60 voitures dans le championnat Blancpain endurance. Avec des niveaux de voitures et de pilotes complètement différents, ça peut faire quelques carnages des fois. Donc.
Oui, ça c'est sûr. Le championnat Blancpain GT Series Endurance Cup, et c'est une appellation assez longue. Je t'annonce, voilà. Tu le sais, que c'est en direct à suivre sur Motorsport TV. Et d'ailleurs, à l'occasion du week-end prochain, les 24 heures de Spa, nous diffuserons 23h30 de direct sur les 24. Alors c'est vrai que la petite infidélité...
Il manque une demi-heure.
Mais oui, alors tu sais pourquoi. Et en plus, c'est moi un peu qui en suis responsable. Ça, je te dis tout, parce que je vais en Finlande suivre le rallye de Finlande, hein, qui sera la neuvième manche du championnat du monde WRC, hein, le beau duel Sébastien Ogier Thierry Neuville, hein, tu penses bien qu'on va quand même pas le louper. Et il y aura donc un résumé de la journée du samedi le soir qu'on vous propose aussi sur Motorsport TV, et donc ça interrompra Spa juste pour une petite demi-heure sur les 24 heures au total. Donc on n'a pas
bien,
réussi.
Ouais.
Alors
c'est pour une bonne cause.
Voilà. Donc on va t'y retrouver alors, hein, aux 24 heures de Spa.
Oui.
Bon. Alors comment ça se prépare une course quand même assez exigeante et forcément très longue.
Mais en fait, voilà, c'est quand même un circuit un peu particulier aussi, Spa, hein, pour des GT. C'est il y a au rouge, donc il a fallu que l'équipe fasse des essais avec toutes les autres équipes. D'ailleurs, il y a deux semaines, je crois. Malheureusement, j'ai pas pu y prendre part. Et voilà, là, maintenant, on détend un peu, on essaie de se reposer le week-end d'avant, et puis pour être en grande forme, parce que c'est une semaine qui est assez exigeante aussi, pas autant qu'au Mans, mais c'est une semaine exigeante, donc faut être bien préparé mentalement.
Mais alors, dis donc, une question qu'on s'est souvent posée, est-ce que faire 24 heures sur un circuit normal, si j'ose dire, ce qui fait 5-6 kilomètres, bon, le Spa, il est assez long déjà, mais enfin, on va dire, il est normal. Format un peu contemporain. Est-ce que c'est plus difficile ou plus facile qu'au Mans qui fait 13 km ? Parce qu'on peut penser qu'au Mans, au contraire, comme c'est long, on est peut-être plus tranquille, si j'ose dire. Qu'est-ce que t'en penses ?
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Au Mans, en fait, c'est le nombre de tours. C'est le côté rébarbatif qui peut y avoir de difficile sur 24 heures. C'est vrai que sur un circuit qui est de 5 km, il y a plus de tours à chaque fois. Donc c'est un peu plus compliqué, il y a moins de grandes lignes droites, donc pour se reposer ne serait-ce mentalement et physiquement, c'est plus compliqué. Et puis là c'est si tu attaques un relais avec un pilote qui est aussi rapide que toi, et ça arrive beaucoup plus souvent en GT qu'en LMP où on se retrouve quand même assez facilement, on va dire, tout seul. Là, sur 24 heures en GT, t'es en bagarre non-stop, quoi.
Oui.
Donc c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est les 24 heures qui sont un peu plus dures. Maintenant, chacun sa spécialité. Moi, je sais que certains vont dire que les 24 heures du Mans, c'est plus compliqué, ça va plus vite, on a moins le droit à l'erreur. Donc, et puis si tu tombes en panne sur une partie du circuit, il faut la ramener, la voiture. Alors qu'aux 24 heures, bon, de Spa, t'as un circuit quand même plus petit et généralement, t'arrives plus facilement à ramener la voiture.
Bon, bah écoute, il faudra voir aussi la météo, hein. Classique ça.
Voilà, ouais. Mais bon, ça peut être intéressant. Autant en MP, la pluie. C'est un peu stressant parce que c'est vraiment des voitures faites pour rouler slow. Quand j'étais, c'est rigolo. J'ai eu l'occasion de rouler à Mugello sous l'eau. Je me suis vraiment bien amusé.
Bon. Alors, je vais profiter de ta présence. Attends, si, j'ai une dernière question personnelle. J'ai pas cru comprendre que tu pouvais faire de la moto ou faire quelque chose comme
de la
ça.
Moto.
Oui, non, j'ai mal lu ça.
Non, j'ai fait cet hiver le trophée Andros en moto.
Ah, ça doit être ça. Oui, il me semblait qu'il y avait quelque chose où je t'avais vu sur deux roues. Bon, donc c'était il y a quelques mois.
Non. C'est sympa, c'est bien sympa. Ouais, il y a un moment déjà.
Oui, c'est ça. Bon, bah. Voilà, non, mais je m'étais dit qu'il faut que je lui repose la question parce que je voulais en savoir plus. Bon. Alors, Est-ce que tu m'autorises à te poser quand même deux trois questions sur le championnat du monde d'endurance, hein?
Pas de problème,
c'est sûr que ton expertise est forcément exceptionnelle. Alors, qu'as-tu pensé des 24 heures du Mans il y a un mois, où on a tous le sentiment que oui, Porsche a gagné, certes, mais que Toyota a encore échoué et que Porsche a gagné finalement un peu limite de justesse, hein, que ça a été simple pour aucune des grandes équipes et ça a même été la grande désillusion, a-t-on envie de dire, du côté des P1 et de ces grandes usines. Comment toi tu l'as vécu et comment tu l'analyses aussi?
Non, mais c'est vrai que ça a été un peu une déception en soi, parce que c'est vrai que de perdre toutes ces P1 les unes après les autres, et puis Toyota, quoi, on s'attendait vraiment à ce qu'ils fassent un résultat, et on espérait aussi pour eux que ça se passe mieux que l'année dernière. Malheureusement, c'est encore plus mal passé, donc c'est un peu décevant. Maintenant, la performance est tellement poussée et puis les technologies sont tellement compliquées, entre guillemets, que c'est difficile à gérer tout ça. C'est là le fait, moi, de revenir sur des catégories un peu plus simples, en faire du développement sur d'autres catégories aussi à côté de ça, je m'aperçois qu'on roulait vraiment avec des voitures vraiment extraordinaires, mais extraordinairement compliquées aussi. Ouais. Et avec beaucoup plus de monde pour régler les voitures, travailler des systèmes, ce qu'on appelait les systémistes avec l'électronique et tout. C'est vrai que ça fait beaucoup de départements pour une seule voiture et un seul pilote qui conduit la voiture. Et du coup, ça crée des problèmes de fiabilité et de compréhension des fois.
Mais on est arrivé un peu au bout du concept, si j'ose dire, d'après toi, c'est-à-dire que c'est...
Ah, c'est difficile de juger, c'est toujours facile de dire après quand tout s'est mal passé comme ça. Je pense aussi que la performance a été poussée ces dernières années. En fait, on a demandé aux équipes de consommer moins, et on les a poussées vraiment très fort à aller chercher l'économie d'énergie, mais en même temps, il faut, avec trois constructeurs, il fallait aller chercher vraiment la performance, donc beaucoup de développement, beaucoup d'argent dépensé pour être les premiers. Il y a personne qui veut lâcher. On était non-stop en train de développer quelque chose. Il y avait toujours quelque chose dans la poche derrière, quelque chose qui arrivait, et on prenait plus le temps de tester comme on le faisait auparavant, parce que les tests sont limités, et du coup tout ça crée une course à l'armement et au développement et à la performance. C'est l'essence même de la course automobile, mais là on est arrivé, je pense, un peu loin. Ouais. Mais c'est pas spécialement faute du règlement, c'est aussi faute des constructeurs qui se mettent pas de limite non plus, mais on n'a pas le choix, parce que on était 2 dixièmes derrière, mais il fallait trouver ces 2 dixièmes, mais c'est devenu tellement précis que il fallait chercher quelque part. C'est le poids, c'est plein de choses, et la puissance, et du coup on tire sur la corde, puis à un moment ça casse.
Alors, si on part du principe qu'on a tous été un petit peu déçus du Mans et de tout ce que ça signifiait, on s'est retrouvé la semaine dernière au Nürburgring pour la reprise du championnat, la 4e manche, donc un mois après Le Mans. Et là, j'ose dire, j'ai commenté la course pour Motorsport TV, que ça a été un peu la douche froide. Alors Benoît, tu le sais comme moi, il y a des bruits qui disent que Porsche partirait à la fin de l'année. Je te demande pas de trahir de secret ou de comme ça.
Non,
tu sais pas, mais tu en as entendu parler comme nous, c'est ça?
Oui, bien sûr. Et après, c'est sûr, si ça arrive, ça va être compliqué pour le championnat, hein, parce que un constructeur qui s'en va encore une fois, c'est pas bon pour le championnat. C'est un super championnat, mais s'il y a plus de constructeurs en MP1 dans la catégorie 1, ou s'il en reste qu'un, c'est sûr que c'est moins attractif, donc il va falloir en trouver un autre. Bon. Ça, c'est sûr.
Et si on veut garder le championnat. Oui, c'est ça. Bon. Et deuxième niveau, un peu d'insatisfaction, la fin de course a été marquée par une manœuvre un peu honteuse, je le dis d'une manière dure, mais chez Porsche, qui a donc inversé les positions au dernier arrêt au stand complètement artificiellement, et qui a donc décidé que c'était un équipage plus que l'autre qui devait gagner la course, tout cela en vertu du championnat, parce que les points aussi ont compté double au Mans, et donc elle était en tête du championnat, donc on a figé les résultats et on les a même inversés à 10 minutes de la fin. Ça ne nous a pas fait plaisir, hein, tu
le sais. Ça fait plaisir à personne, et encore moins, j'ai André qui est pas loin de moi là.
Oui. D'accord. tu le salues, tu dis que je compatis bien, parce que je n'ai pas mâché mes mots pour dire que non, ça c'était un spectacle qu'on ne voulait pas.
C'est sûr. Dans le sport, on recherche pas ça. Maintenant, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça s'est vu en F1, ça s'est vu en endurance dernièrement. Après, c'est vrai qu'il y a des façons de le faire. C'est vrai que c'est pour le sport, c'est pas super sympa. Mais après, vous pouvez suivre le cyclisme comme moi.
Oui.
En ce moment, ça fait partie. Il sacrifie certains coéquipiers pour emmener
les autres devant. Ça fait partie de la stratégie. Maintenant, c'est des choses peut-être à accepter en endurance aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est dans le sport automobile, c'est quand même pas ce qu'on recherche.
Bah voilà,
pas
ouais, on a quand même été déçus. Ouais. Ouais, bon. Bah écoute, voilà, salut André Lauterer. Donc j'ai bien compris. Voilà. De notre part, tu l'embrasses et tu lui dis que oui, on était vraiment déçus pour lui parce qu'il avait été chercher la première place et qu'on pensait que c'était fait, qu'il méritait de gagner. Bon, bref. Merci Benoît. Benoît Trélué, triple vainqueur de 24 heures du Mans, champion du monde d'endurance en direct aujourd'hui avec nous. Bah, c'était super sympa, Benoît. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Est-ce que ne savait pas Benoît, il parlait de cyclisme, mais je peux témoigner que j'ai Cyril Guimard à mes côtés. Donc, je suis bien content d'avoir Cyril. Et donc, je n'imagine pas, mon cher Jeff Morel, que tu vas parler d'autre chose que de cyclisme, en tout cas, principalement, cet après-midi dans l'intégral sport.
Ah non, Cyril, il est juste venu écouter. Cet après-midi, il est passionné de sport. Il s'est dit, tiens, je vais venir faire un petit tour, je vais me mettre dans le studio. Et puis voilà, j'ai vu la lumière. Et
comme le sport automobile, il aime bien aussi, hein, mon cher Cyril. Bah voilà, bah donc en tout cas, je vous passe la parole.
Sauf quand on met des moteurs sur les vélos.
Oui, eh ben ça, on est bien d'accord, ça doit pas
ça,
arriver.
Ça, c'est une belle polémique aussi qu'on a eu ces derniers temps. Bon, l'intégral sport dans quelques instants. Merci beaucoup, Frédéric.
À très bientôt, bien sûr.
Avec le Tour de France de 16h à 21h, on aura l'intégral Tour de France, la dernière étape qui arrive sur les Champs-Élysées sur RMC. Et avec Cyril, dans quelques instants, on va parler de cette étape. Qui peut gagner au sprint? Pourquoi pas Nasser Bouhanni, même si ça semble compliqué. On verra également le cas Romain Bardet. Peut-il gagner dans le futur? A-t-il fait un super Tour de France? La réponse est oui, mais est-ce qu'il aurait pu gagner quelques secondes à certains moments? On aura également au programme le championnat du monde de natation à Budapest et évidemment un transfert qui fait beaucoup parler, enfin un éventuel transfert, celui de Neymar au PSG. On vous attend tout au long de l'après-midi au 32-16 et sur la hashtag RMC Live.